D'habitude, quand on pense au tout premier récit fondateur de l'humanité, on a un peu cette image d'une progression assez logique.
Ouais, une évolution un peu naturelle, quoi.
C'est ça. On a en tête la création, l'apparition de la vie, les balbutiements d'une société, avec des erreurs bien sûr, mais globalement, un truc qui se construit petit à petit.
Alors que pas du tout, en fait.
Bah non, pas du tout. Parce que quand on ouvre les premiers chapitres de la Genèse, on se prend un mur. La réalité est hyper brutale. L'ironie, pour notre audience, elle est saisissante, parce que la toute première mort humaine qui est enregistrée dans ce texte, bah c'est pas une mort de vieillesse.
Non, c'est clair. Ni un accident de chasse.
Voilà. C'est un meurtre. Et pas n'importe quel meurtre, c'est un fratricide, motivé par une haine pure. Le premier homme à mourir, il est tué par son propre frère. Et c'est exactement pour explorer cette noirceur originelle qu'on plonge aujourd'hui dans une analyse approfondie.
Une plongée dans les notes du professeur Robert Van Wary, c'est ça?
Exactement. Sa 14e conférence sur l'histoire de l'Ancien Testament, en se concentrant sur les chapitres 4 et 5 de la Genèse. L'idée, pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment pas de vous relire la petite fable classique de Caïn et Abel qu'on connaît tous de loin. Hein.
Ça serait un peu ennuyeux.
Grave. Notre mission, c'est vraiment de creuser, d'aller chercher les mystères théologiques, les paradoxes de la nature humaine et tous ces débats d'érudits qui sont un peu cachés derrière les versets.
Et c'est une démarche qui est super importante. Parce que ce texte, il résonne encore aujourd'hui d'une manière assez dingue. C'est pas juste un truc antique et poussiéreux pour les chercheurs en théologie, tu vois.
Ouais, c'est beaucoup plus actuel que ça.
Carrément. C'est presque une étude clinique, en fait. Une étude sur la jalousie, sur la responsabilité personnelle et sur la façon dont notre psyché gère le rejet. Et ça, c'est universel. C'est vraiment un miroir de nos propres conflits de civilisation.
Un miroir des premiers conflits humains. Et du coup, vu que tout ce drame tourne autour de ce sentiment viscéral de rejet, je me dis que la première étape logique, c'est de remonter à la source.
Le fameux problème de l'offrande.
Voilà. Pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptée par Dieu et pas celle de Caïn? Le texte, il dit juste qu'Abel a apporté les premiers-nés de son troupeau et Caïn les fruits de la terre. C'est tout. Mais il y a forcément un truc plus profond.
Ah bah, c'est le grand point de friction parmi les experts. Hein. Dans les notes de Van Hoy, on voit bien qu'il y a deux grandes perspectives qui s'affrontent là-dessus.
Ok, on t'écoute.
D'un côté, tu as la vision de B.B. Warfield. C'est un théologien qui oppose deux concepts. Il parle de la théorie du don, ou de l'hommage, si tu préfères, contre la théorie qu'il appelle piaculaire.
Attends, le terme piaculaire, on va s'y arrêter deux secondes parce que c'est du gros jargon, ça.
Ouais, désolé, c'est un peu technique.
T'inquiète. En gros, c'est lié à l'expiation, c'est l'idée de payer une dette morale. C'est quand tu reconnais intimement que tu as brisé une relation ou une règle, et qu'il faut un acte fort pour réparer ça, non?
C'est exactement ça. Et c'est la nuance clé pour Warfield. Pour lui, le problème de Caïn, c'était pas du tout une question de menu.
Genre Dieu préférait pas l'agneau au blé.
Voilà, Dieu s'en fichait des éléments physiques. La différence, elle était à 100% dans la disposition du cœur des deux frères. Caïn s'est pointé avec une mentalité d'hommage.
Comme un impôt, en fait.
C'est ça, un vassal qui paye sa taxe symbolique à son roi pour reconnaître sa supériorité. C'est purement formel. Alors qu'Abel, il a apporté une offrande piaculaire. Il avait conscience de son imperfection, il ressentait le besoin d'être pardonné. Et c'est cette vulnérabilité, cette posture de foi, qui a fait toute la différence.
C'est fascinant, vu comme ça. Si j'essaie de vulgariser avec une analogie du quotidien pour notre audience, ce serait un peu comme la différence entre offrir un cadeau d'entreprise et écrire une vraie lettre d'excuse.
Oh, j'aime bien cette image.
Tu vois, le gars qui envoie la corbeille de fruits standard à son patron à Noël, c'est fait par obligation pour cocher la case. Ça, c'est l'hommage de Caïn.
C'est le strict minimum syndical, quoi.
Exactement. Alors que l'approche d'Abel, c'est la personne qui a merdé dans une relation, qui le sait, et qui vient avec une lettre manuscrite hyper sincère pour essayer de réparer les choses. C'est pas une taxe, c'est une recherche de réconciliation.
C'est une super métaphore. Mais il y a un autre chercheur, John Murray, qui vient un peu complexifier cette lecture.
Ah, parce que c'était trop simple, hein.
Bah oui, c'est de la théologie. Hein. Murray y dit que l'attitude comptait, certes, mais que la nature même de l'offrande était primordiale. Il s'accroche à l'expression biblique du, je cite, « sacrifice plus excellent ».
D'accord, et plus excellent, ça impliquerait quoi?
Pour Murray, ça sous-entend qu'Abel aurait suivi des instructions très précises que Dieu avait données avant, et que Caïn aurait tout simplement ignoré.
Sauf que, arrête-moi si je me trompe, mais ces instructions, elles sont nulle part dans le chapitre 4.
Effectivement.
Mais certains font le lien avec le chapitre 3. Tu sais, quand Dieu habille Adam et Ève avec des vêtements de peau après la chute.
Ah, donc un animal a dû mourir pour ça.
Exactement. Ce geste aurait instauré le principe du sacrifice animal, une vie donnée pour couvrir une faute. Et Murray pense qu'Abel a respecté ça, alors que Caïn a fait un peu sa petite rébellion en apportant les fruits d'un sol qui, rappelons-le, venait d'être maudit par Dieu.
Ah ouais, le sol maudit, c'est vrai. C'est un détail qui tue. Donc on a un vrai débat. L'intention pure du cœur d'un côté, ou le respect d'une règle établie de l'autre.
Et le pire, c'est que le texte lui-même y tranche pas. Vanoy le souligne bien, la Genèse reste muette sur la raison exacte. On est laissé là, avec nos spéculations.
Mais par contre, là où il y a zéro ambiguïté, c'est sur la réaction de Caïn. Le rejet, ça déclenche chez lui une rage absolue. Son visage s'assombrit, il est fou de colère.
Une colère noire, ouais.
Et c'est là que Dieu intervient avec un avertissement au verset 7, qui contient franchement l'une des phrases les plus débattues de toute l'histoire de la Bible. Le péché se couche à la porte.
Oula, oui. Cette phrase, c'est un casse-tête monumental de traduction. Tout repose sur un seul mot hébreu, chata, qui a une ambiguïté de malade.
Vas-y, explique-nous ça.
En gros, ce mot, il peut vouloir dire le péché en tant que force morale. Mais il peut aussi vouloir dire un sacrifice pour le péché, c'est-à-dire l'animal physique qui sert à l'expiation.
Ok, donc ça change littéralement toute la dynamique de la scène. La vision classique, celle qu'on a tous un peu en tête, c'est la première option, on est d'accord?
C'est ça. Le péché comme une bête sauvage. C'est une image allégorique hyper puissante. Le péché est vu comme un prédateur, accroupi à la porte du cœur de Caïn, prêt à lui sauter à la gorge.
Un appel à la responsabilité, en fait.
Tout à fait. Dieu lui dit en substance, « Le monstre de la jalousie veut te dévorer, mais tu dois le dominer. »
C'est dingue parce que c'est hyper moderne comme approche. C'est presque de la psychologie clinique. Gérer ses émotions, réguler cette colère qui s'accumule avant qu'elle n'explose.
Le libre arbitre face à la pulsion, ouais.
Mais j'ai vu dans les notes de Vanoy qu'il y a un certain Atkinson qui propose une lecture complètement à l'opposé avec la deuxième traduction.
Oui, Atkinson, lui, il choisit l'idée du sacrifice pour le péché. Et du coup, exit la bête sauvage. Pour lui, Dieu dirait plutôt un truc du genre « Écoute, Caïn, t'as raté ton offrande, mais c'est pas grave. Regarde à la porte, il y a un animal sacrificiel qui t'attend. »
Une sorte de seconde chance instantanée.
Voilà, une théorie de la grâce immédiate sur un plateau d'argent.
Alors, sur le papier, c'est beau, c'est séduisant. Mais honnêtement, en lisant la source, je trouve que ça tient absolument pas la route.
Ah ouais? Pourquoi?
Bah, à cause de la grammaire. La phrase juste après, elle dit « Ses désirs se porteront vers toi, mais toi domines sur lui. » Si le truc à la porte, c'est un gentil petit mouton pour le sacrifice, ça n'a aucun sens. Un mouton, ça n'a pas le désir de dominer un humain, il n'y a rien à maîtriser.
C'est vrai que c'est la grosse faille de sa théorie.
Et du coup, Atkinson essaie de bricoler ça? Non.
Oui, il fait un peu de la gymnastique avec le texte. Il prétend que le pronom dans la phrase ne renvoie plus à l'animal, mais à Abel. Genre, si tu fais le bon sacrifice, ton petit frère Abel se soumettra à toi.
Mais c'est de la voltige syntaxique, ça. C'est super artificiel. Tu peux pas changer le sujet d'un pronom juste parce que ça arrange ta théorie. C'est comme, c'est comme un traducteur qui forcerait un mot qui n'a rien à voir juste pour réussir à faire rimer un poème à la fin.
Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, le professeur Vanoy aussi rejette cette pirouette. Pour lui, la règle hébraïque est claire. Le pronom renvoie au mot d'avant. Donc, l'interprétation de la bête tapis, c'est la seule qui soit linguistiquement et logiquement solide.
Et psychologiquement aussi, ça a tellement plus de sens. Ça décrit vraiment la mécanique de la chute. Une chute qui, arrive juste après, vu que Caïn perd cette fameuse bataille.
Il cède à la bête.
Et il le tue. Et là, on bascule dans une autre dimension du récit. On assiste au tout premier procès, au premier interrogatoire criminel de l'humanité. Dieu arrive et pose une question glaciale. Où est ton frère Abel?
C'est ça. Et c'est un écho parfait, je trouve, à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec ses parents.
Totalement. Dans le jardin, Dieu avait demandé « Où es-tu, Adam ?» C'est la même dynamique. Dieu est omniscient. Il sait très bien où est le cadavre.
Il n'a pas besoin d'un GPS.
Exactement. C'est une technique d'interrogatoire, une perche tendue pour susciter la confession, pour voir si Caïn va assumer. Sauf que, là où Adam et Ève avaient fini par avouer, même s'ils s'étaient un peu cachés et avaient accusé le serpent, Caïn, lui, y passe à un niveau de cynisme effrayant. Il regarde Dieu en face et il lâche le fameux « Suis-je le gardien de mon frère ?»
C'est d'une arrogance folle.
C'est un mensonge éhonté.
C'est l'endurcissement total du péché. on est passé d'une erreur de jugement à un meurtre de sang-froid, recouvert d'un mensonge arrogant. Et ça, ça appelle une conséquence inédite. Vanhoy souligne bien que Caïn reçoit la toute première vraie malédiction prononcée sur un humain.
Ah oui, parce qu'avant, c'était le sol qui était maudit.
Voilà. Le serpent était maudit, le sol à cause d'Adam, mais Adam lui-même ne l'était pas. Là, la sentence tombe direct sur Caïn.
Et ça frappe exactement là où ça fait mal. Son identité, c'était d'être agriculteur, et Dieu lui dit, en gros, bon, bah, la terre a bu le sang de ton frère, donc maintenant, tu pourras te tuer à la tâche, elle te donnera plus rien.
Le chômage technique éternel. Il est privé de sa vocation, mais en plus, il est condamné à être un vagabond, un fugitif sans racines, l'exil complet.
Et ce qui est fou, c'est que Caïn, quand il entend ça, il panique. Mais il flippe pas de mourir de faim. Il flippe des autres humains.
Il a peur qu'on le tue.
C'est ça. Il a ouvert la boîte de Pandore de la violence et il sait que la vendetta, la loi du sang, va lui tomber dessus. Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe massif dans le récit. Dieu, au lieu de le laisser à son sort, va lui mettre un signe de protection.
Et promettre une vengeance septuple contre quiconque le toucherait.
Septuple, ça symbolise quoi, Evelyne ?
Le chiffre 7, dans la Bible, c'est la plénitude, l'absolu. Ça veut dire que Dieu réserve une punition parfaite et totale à celui qui oserait tuer Caïn.
Bon, il faut bien clarifier un truc majeur pour notre audience, parce qu'il y a un mythe énorme autour de cette fameuse marque de Caïn. Dans la pop culture, c'est toujours vu comme un tatouage dégueulasse sur le front, une cicatrice honteuse pour dire à tout le monde « Regardez, c'est le meurtrier ».
Ah oui, le stigmate d'enfamie, c'est un classique, mais c'est un contresens total par rapport au texte.
Vanhoy est hyper clair là-dessus.
Tout à fait. La marque, elle n'a aucune fonction punitive. C'est l'inverse. C'est un bouclier, un gage de protection divine pour que personne ne le tue.
Un gars arrogant qui vient de massacrer son frangin. Et non seulement il n'a pas la peine de mort, mais Dieu lui donne une garde rapprochée divine. Alors que si on avance un peu dans la Genèse, au chapitre 9 après le déluge, Dieu institue super officiellement la peine de mort pour les meurtriers. Pourquoi cette clémence pour Caïn ?
C'est une vraie grosse énigme théologique. Vanhoy admet qu'il n'y a pas de réponse explicite dans le texte, mais l'hypothèse la plus crédible, c'est celle d'une période probatoire.
Une période de test ?
C'est ça. L'idée de laisser le faible et le fort grandir ensemble, sans imposer tout de suite une justice institutionnelle et coercitive. Dieu laisse l'humanité agir librement pour voir jusqu'où ses penchants naturels vont l'amener.
Un genre de laboratoire social à ciel ouvert.
Exactement. Et, spoiler alerte, ça va tellement mal finir que ça mènera au déluge. Sans structure de justice, l'humanité court à sa perte.
C'est glaçant. Bon, on avance dans le récit. Caïn part en exil, protégé par sa marque. Et là, au verset 17, paf, on tombe sur la question que tous les sceptiques posent depuis des millénaires.
Ah, la fameuse femme de Caïn.
Bah oui. Le texte dit très calmement qu'il connut sa femme. Mais d'où elle sort s'il n'y a que lui et ses parents sur la planète ?
C'est le grand classique pour essayer de décrédibiliser le texte. Mais Vanhoy désamorce ça avec de simples mathématiques démographiques tirées de la Genèse elle-même.
Vas-y, fais-nous le calcul.
Eh bien, au chapitre 5, on apprend qu'Adam a vécu 930 ans. On sait aussi que Seth, le fils qui remplace Abel, est né quand Adam avait 130 ans. Ça veut dire qu'entre le meurtre et la naissance de Seth, ou du moins depuis le début, il s'est passé plus d'un siècle. Et le texte précise qu'Adam et Ève ont eu de nombreux autres fils et filles.
C'est là que l'analogie avec les intérêts composés en finance est super parlante. Au début, tu places une petite somme, ça monte doucement. Mais avec la reproduction, sur 100 ans, c'est exponentiel.
Totalement. C'est pas une simple addition, ça se multiplie.
Donc même si Adam et Ève ont eu juste quelques enfants au début, avec les générations qui s'enchaînent tous les 20 ans, tu peux facilement avoir 4 ou 5 générations qui se chevauchent. Des centaines, voire des milliers de personnes.
Voilà, ce qui ressemble à un trou dans le scénario, c'est juste que l'auteur biblique a fait une ellipse. Il n'a pas le temps de faire le recensement de la terre entière, son but c'est de suivre la lignée principale. Donc oui, Caïn a épousé une sœur ou une nièce.
Ce qui, à l'époque, avec un pool génétique tout neuf, posait aucun souci biologique.
Et c'était pas non plus un interdit moral à ce stade. Les lois mosaïques n'existaient pas encore.
Ok, donc le monde se remplit. Et au milieu de tout ça, que fait notre fugitif maudit ? Le texte dit qu'il a un fils, Enoch. Et juste après, en une demi-phrase, on apprend qu'il construit la toute première ville de l'histoire. Et lui donne le nom de son fils.
C'est un détail énorme.
C'est sur ça que je veux qu'on s'arrête pour conclure. Si on résume, on a vu que cette histoire, c'est pas juste une fable. On a exploré l'hommage versus l'expiation, le péché qui guette à la porte. Et cette justice divine paradoxale qui laisse le meurtre impuni, mais protégé.
Une vraie tension entre la destruction humaine et la grâce, en somme.
C'est ça. Mais ce dernier acte de Caïn, le fait de devenir le premier bâtisseur, ça me fascine. Je veux laisser les gens qui nous écoutent avec une pensée un peu provocatrice là-dessus. Souvenons-nous de la punition de Caïn. Il devait être un vagabond, un errant, coupé de ses racines. C'était son destin.
L'exil perpétuel, ouais.
Et quelles sont ses réactions directes après? Sous le couvert de sa protection divine, il rassemble des pierres, il trace des limites, il fait des murs, il construit une ville.
C'est l'antithèse de l'errance.
Avec ce besoin obsessionnel de faire des murs et de se sécuriser, c'était pas dès le départ une tentative désespérée de défier cette condamnation divine. Caïn refuse d'être un errant. Il essaye de s'ancrer, de se protéger lui-même par l'architecture.
Une sorte de rébellion sédentaire, en fait.
Voilà. On croyait analyser un conte sur les débuts de l'humanité, on y a trouvé un meurtre. On pensait voir un fugitif résigné et on tombe sur le premier architecte d'une forteresse. L'humanité s'est peut-être enfermée derrière des briques juste pour oublier qu'elle était en fuite. Et finalement, la bête qui était tapie à la porte, dans les champs, il semble bien qu'elle a fini par emménager en ville avec lui.